Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
De 12h30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info.
Salut, salut, c'est donc Micro-ondes qui reprend les ondes sur Kaleidoscope 97 FM. On est content de vous retrouver ce 14 février, du coup, à midi et demi sur Kaleidoscope. Voilà, du coup, on a eu un vaste programme et un chouette programme aujourd'hui. Donc, juste simplement pour rappeler, ça a déjà été dit dans le générique, mais vous pouvez retrouver cette émission sur letamis.info, c'est donc en podcast, donc le-tamis.info. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Et en tout cas, vous pouvez dès à présent rester toute l'émission avec nous, une heure et demie, avec le chouette programme qu'on a, puisque du coup, on a donc Philippe de la CRI. Voilà, je te laisserai te présenter un peu après, mais donc qui viendra parler ici de racisme et d'islamophobie. Et puis on a aussi derrière du coup donc et de revenir sur ce sera aussi l'occasion de revenir sur l'affaire Abdelaziz Chambi, voilà, donc un procès dont on a déjà parlé dans cette émission la semaine dernière, souvenons-nous-en, et t'étais déjà là d'ailleurs Philippe pour parler de ça. Et puis derrière, on aura un petit temps du coup sur la mobilisation étudiante pour la défense de la fac contre la loi Vidal, et un petit temps aussi sur une manifestation organisée par des Soudanais contre l'esclavage en Libye. Voilà, Micro-ondes s'est encore déplacé pour être au plus près des personnes impliquées dans les luttes et impliquées par les luttes. Voilà, merci beaucoup Abdel, je te laisse la parole pour commencer l'interview.
Merci Baptiste pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous avons la chance, pardonnez-moi, d'avoir Philippe Robin, acteur au sein d'une coordination qui s'appelle CRI, Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Philippe Robin est acteur sur la région grenobloise, iséroise en général. Et il va nous présenter un petit peu cette orga, ce que c'est, quel est l'objectif. Bonjour à toi, Philippe.
Salut, merci de l'invitation.
C'est un vrai plaisir de t'accueillir ici.
Merci. Oui, c'est le CRI, Coordination contre le racisme et l'islamophobie, donc une association qui a son siège juridique à Lyon, qui a été fondée en 2008-2009, précisément juridiquement, suite à une affaire donc, d'une dame palestinienne qui voulait suivre une formation du soir, formation pour adultes, et donc qui porte un foulard. Et donc on lui a supprimé cette formation, ce droit à la formation, à cause de son foulard, supposé que c'était les conséquences négatives, les dégâts collatéraux de la loi de 2004 sur le signe religieux à l'école. Donc cette dame, elle a perdu sa formation, donc son droit à la formation, son aide, etc. Donc sur une femme palestinienne, donc qui a des enfants, etc. à nourrir. Donc tout un processus familial d'exclusion, bien individuel aussi. Donc personne n'a voulu prendre cette affaire, en fait. Personne n'a voulu prendre cette affaire parce que certains craignaient qu'on ait d'autres lois qui viennent surajouter à cette loi de 2004 contre les signes religieux à l'école. Donc Abdelaziz Chambi et d'autres personnes sont montés au créneau. On a monté la structure juridique du CRI, donc Coordination contre le racisme et l'islamophobie, pour parler, pour aider cette dame. Et puis finalement, pour amener la question sur le fond, c'est-à-dire que la question de fond n'est pas juridique. Elle n'est pas juridique. Il y a des structures qui font du juridique autour de ces questions de racisme et d'islamophobie, ou de homophobie, ou de négrophobie, etc. Il y a du juridique. Mais pour nous, la question de fond, elle est politique. Donc le CRI, il a cette particularité d'articuler un discours politique sur cette question, parce que le racisme, l'islamophobie et d'autres discriminations sont des produits systémiques. Ils sont fabriqués, ils sont entretenus. À une époque, on disait il y a une peur peut-être relative, il y a une peur naturelle, et puis il y a une peur entretenue. Ça existe aussi dans les processus psychologiques aussi. Donc il y a une peur naturel de certaines populations qui voient des femmes voilées parce qu'ils n'en ont jamais vu, des femmes même avec un niqab qui voile tout le visage. Alors ça crée un choc parce qu'ils ne connaissent pas, etc. C'est normal, c'est naturel, comme quand on peut voir quelque chose de très différent de soi-même ou qui est dans notre imaginaire inconscient et vient d'ailleurs, voire même de très loin. Donc, ça. Mais au bout d'un moment, il y a un phénomène entretenu qui se passe sur ces questions-là, qui fait que il y a des phénomènes sociaux. Une femme en foulard, c'est pas d'hier qu'on la connaît, qu'on sait qu'elle est en France, qu'elle est notre voisine, qu'elle va à l'école, qu'elle travaille, etc. Donc il y a un phénomène entretenu sur ces questions, et ça c'est politique. Et c'est de ça qu'on parle, la coordination, c'est qu'on veut mettre le doigt sur les questions politiques qui sont relatives à cette question d'islamophobie. Alors la meilleure manière politique de lutter contre des genres d'organisations comme nous, c'est de dire l'islamophobie, c'est un terme inventé justement par les islamistes pour pouvoir attaquer la République. Et donc là, on disqualifie toute résistance. C'est comme si le personne qui est de couleur noire va se plaindre d'une négrophobie. On va lui dire, oh, mais ça, c'est un terme que tu inventes, parce qu'en vérité, tu vas attaquer notre... Ça n'existe pas, voilà, ouais. C'est comme si... Donc, pour faire court, et pour mettre l'accent sur le fait que la coordination contre le racisme et l'islamophobie, le CRI, a cette particularité de non pas lutter uniquement juridiquement sur ces phénomènes, parce qu'effectivement, on a beaucoup de plaintes, hein, 1, 2, 3 plaintes par semaine qui viennent, on ne peut pas tout traiter, c'est pas le cœur de notre sujet, on n'est pas armé pour ça, on n'a pas de subvention pour ça. On remercie d'ailleurs tous les donateurs, j'en profite de remercier tous les donateurs qui soutiennent sur différentes affaires au coup par coup. Et donc c'est une question politique, nous on articule politiquement. Voilà. Après, je peux éventuellement parler de différentes villes où on est implanté, où on a été implanté.
Déjà, simplement pour en revenir à l'origine, là, tu dis qu'à un moment, du coup, c'est parti d'une affaire sur laquelle les autres vous ont pas suivi. Est-ce que toi, tu as une explication, pourquoi les autres vous ont pas suivi à ce moment-là, pourquoi ça a froissé, pourquoi c'était compliqué de se positionner sur cette affaire?
Il faut savoir qu'on sort de la loi 2004-2005 contre les signes religieux à l'école. C'est un coup quand même qui a été mis au principe de laïcité, parce qu'on demande finalement au public d'être lui-même laïque, alors que c'est les structures, c'est l'État qui est laïque dans la France. Pour sans arrêt répéter chaque année, on répète même aux institutions de l'État, même aux fonctionnaires, on leur dit c'est pas les gens qui sont laïques, les gens ne sont pas laïques aujourd'hui. Les gens étaient laïques quand il n'y avait pas la laïcité, justement. Avant 1905, il y avait les clercs et les laïcs. Une fois que l'État est laïque, il n'y a plus de clercs ou de laïcs. C'est juste des gens, c'est juste du public. Donc on a accès aux institutions de l'État, quel que soit notre vêtement, en fait. Donc on est dans le ce contre-coup de la loi sur les signes religieux à l'école. Il y a eu quand même des manifs, il y a eu des collectifs qui se sont formés, École pour toutes et tous. Il y a beaucoup de mobilisation, pas forcément des premiers intéressés, c'est-à-dire des représentants du culte musulman, si on veut les appeler comme ça, etc. Ni des grosses orgas qui comme l'UOIF qui se sont retirés parce qu'on leur a promis.
UOIF, ça veut dire
UOIF, qui s'appelle plus UOIF, mais qui s'appelait à l'époque Union des organisations islamiques de France, donc qui est une organisation qui rassemble plusieurs associations, etc., qui aujourd'hui construit des écoles, gère quelques mosquées, des choses comme ça. Donc, et ça, c'était à l'époque de Sarkozy. Sarkozy disait, tenez-vous tranquille et vous serez accepté à la table de la République, vous pourrez parler, vous serez plus traité d'islamiste, entre guillemets, parce que c'était dans cette ligne de viseur, on les traitait d'islamistes, des choses comme ça. Mais dire, de se taire sur ces questions de droit, finalement, ça les a pas servi, ni à être connus, ni à pouvoir progresser dans le discours politique, et c'était pas leur souhait d'ailleurs, c'était pas leur volonté. Donc nous, en tout cas, des militants autonomes, des militants qui soient d'ailleurs des musulmans ou pas, parce que collectif tous et tous, c'est pas toutes et tous, c'est pas que des musulmans, c'est des citoyens, quelle que soit leur confession, qui se disent le cadre de la laïcité est en train de changer. Avec cette loi, le cadre de la laïcité change. Mais ces discussions-là dataient déjà de 89, la première affaire du foulard, de 94, la loi... le décret de Beyrouth, etc. Donc le point final, on va dire, sur toutes ces questions de foulard à l'école, on a mis en 2004, et on est là dans le contre-coup, finalement, de 20 ans, ou de 10 ans, plutôt 10, 12 ans de discours sur le foulard, de discours sans écouter celles qui le portent, sans écouter les associations qui disent « oui, mais quand même, il y a des choses, il faut quand même expliquer des choses, faut quand même... » On parle de laïcité depuis 20 ans, les associations comme nous, on est devenus plus spécialistes que les spécialistes de la laïcité, quoi. Donc il y a un contre-coup qui fait que des organisations, des militants se disent c'est un sujet trop difficile, c'est un sujet politique à un haut degré de l'État, c'est un sujet piégeux. Certains disent si on monte au créneau sur des affaires comme ça, on va nous foutre une deuxième loi encore sur les femmes au travail, on va faire, etc., etc. Et nous on pense pas que c'est la bonne solution, parce que si on est dans un État aujourd'hui où on peut défendre des droits, où on peut dénoncer des discriminations, des racismes, des dysfonctionnements profonds de l'État, on doit le faire parce qu'il se peut qu'on se retrouve dans un État où on ne peut pas le faire. Et il y en a qui vivent dans des États où ils ne peuvent pas le faire. Donc nous, c'est une question de principe. Question de principe. Alors que peut-être que certains diront oui, mais il y a un risque, etc. etc. Oui, mais dire, à force de travailler tout seul dans une logique de peur, on ne pourra plus jamais rien défendre. Donc il y a une fameuse histoire, dont je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais j'aime bien l'utiliser parce que ça a du sens. C'est quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, j'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit, je suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai rien dit, je suis pas homosexuel. Et puis quand ils sont venus me chercher, eh ben, il n'y avait plus personne pour m'aider parce que je suis tout seul. Voilà. Donc nous, on pense que au CRI et puis à d'autres organisations comme le CRI, on pense qu'il faut que beaucoup d'orgas ou de citoyens sont prêtes à défendre des principes, même si elles ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on est, etc. Et ce n'est pas ça le problème, parce que justement, on vit dans un pays où on est supposé avoir ce cadre de liberté et que c'est pas chacun ne défend pas son petit prêt à lui. Ce n'est pas ça la logique, parce que ta liberté, c'est ma liberté. Si on attaque ta liberté, c'est ma liberté qu'on attaque, c'est la même chose. Ce n'est pas ta liberté, ta personne qui est visée, c'est le principe de liberté qui est visé. Donc quand on attaque la liberté de quelqu'un, on attaque la liberté en général. Donc c'est pour ça que nous on est monté au créneau, c'est pour ça que d'autres ne sont pas montés au créneau, parce qu'ils ont craint qu'effectivement d'autres lois viennent. Mais d'autres lois, sans qu'ils soient montés au créneau, d'autres lois sont venues. On a eu la loi de 2011 sur le voile intégral, etc. Donc ça veut dire qu'avec cette question, même en se taisant sur ces questions-là, le média et le politique a besoin. C'est pour ça que c'est une question politique. Le média et le politique, ils ont besoin de cette question de foulard, de femmes voilées, d'islamistes, etc. Parce que c'est un de leurs fonds de commerce politique. Donc c'est bien une question politique. C'est pas une question de laïcité. C'est une question de politique. Et en premier lieu, pour ces gens-là qui cherchent un électorat, et on l'a vu comment la question de l'islamophobie est transverse dans les partis politiques, très peu parmi les gens de la gauche dont on aurait pensé qu'ils aideraient ou ils défendraient certains principes, notamment sur la question de la laïcité, sur la question de vivre ensemble, etc., de rapport à l'autre, de rapport à l'altérité. Très peu sont, ou quasiment aucun, sont venus nous défendre, défendre des femmes voilées, défendre ces principes-là. Parce que c'est un sujet qui, depuis 10, 20 ans, 30 ans, c'est un sujet utilisé politiquement. Donc nous, on pense qu'il faut, si c'est un sujet politique, il faut agir politiquement. Voilà.
Et justement, au tout début de ton intervention, tu faisais la différence entre, j'ai l'impression, une lutte juridique et une lutte politique. Du coup, est-ce que la CRI ne fait pas du tout de juridique ? Enfin, comment tu différencies les deux ? Comment tu articules les deux ? Voilà.
Le CRI défend des affaires juridiquement parce qu'on fait appel à nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu 1, 2, 3 cas de sollicitations par semaine sur des sujets qui se répètent beaucoup. C'est souvent des femmes qui ont été exclues de telle institution, de tel loisir, de telle école, ou qui pensent qu'il y a une discrimination du fait qu'ils sont musulmanes ou arabes, des choses comme ça. Souvent des affaires comme ça qui reviennent. Nous, on n'a pas vocation à tout gérer. On ne peut pas tout gérer. On n'a pas une structure financée. On n'a pas des juristes financés. On n'a pas de subventions, etc. On est, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler une petite structure. On fonctionne avec des dons des citoyens, éventuellement des structures, des sociétés qui veulent bien nous aider en nous donnant un peu plus qu'un citoyen peut donner. Mais on n'a pas vocation à faire du juridique. On rappelle aux gens qu'on a vocation à faire du politique, un discours politique, mais on aide sur des cas qui peuvent être emblématiques ou pas, notamment par exemple la ferme Sacny. Mais la ferme Sacny de Bourgoin-Jallieu, c'est pas forcément que le CRI qui a agi. Le CRI était là, le CRI était présent, bien sûr. Il y a des membres du CRI, c'est pas très loin de chez nous, c'est à Bourgoin-Jallieu, donc et entre Lyon et Grenoble. Donc,
est-ce que c'est possible de la resituer
il était prévu qu'on en parle un petit peu dans la deuxième partie.
D'accord.
Suspense, on maintient le suspense.
On maintient le suspense,
c'est notre recette à micro-ondes.
Moi, je voudrais juste revenir sur un truc qui m'a beaucoup touché et en fait. Penser à notre auditoire qui ne connaît pas forcément tous ces problèmes d'islamophobie, parce que ce ne sont pas les premiers concernés. On a dit que c'était un peu un pantin, tu avais dit, un peu un tour de prestidigitation. On a sorti cette islamophobie et on l'a utilisée, on l'instrumentalise pour masquer des choses. on masque. Comment ça fonctionne? C'est quoi cette idée-là de plus parler de problèmes de chômage, de travail, de sécurité, etc.
Oui, c'est un sujet qui revient cycliquement, en fait. Si vous reprenez les 10, 15 dernières années, 20 dernières années, c'est un sujet qui revient cycliquement. Nous, ce qu'on vit, hein, je vais vous expliquer des phénomènes précis pour comprendre. Il y a des choses comme la loi de 2004. Par exemple, la loi de 2004, comme j'ai dit, elle met 10-15 ans à sortir. Contre la loi de 2004, contre les signes religieux à l'école, elle met 10-15 ans à sortir. Derrière cette loi, tout à coup, beaucoup de mamans, parents d'élèves, qui portent un foulard, sont exclus des sorties scolaires. Mais ce n'est pas le cadre de la loi. Ce n'est pas dans la loi, ça. Mmh. C'est illégal. Et aujourd'hui, ça court toujours. Aujourd'hui, ça court toujours. C'est-à-dire qu'on est 10 ans après, on est plus de 10 ans après, à Saint-Martin-d'Hères, à Échirolles, dans beaucoup de villes de France, des femmes ont été exclues des sorties scolaires. Donc elles sont montées au créneau. C'est des parents d'élèves. Ils se sont dit, mais de quel droit vous faites ça? Oui, mais c'est la loi, etc. Donc ça veut dire les agents de l'État, des instituteurs. On parle d'un instituteur, d'une école de quartier. C'est de ça qu'on parle. C'est des agents qui font eux-mêmes la promotion, qui font du zèle sur cette question. L'État, il ne faut pas dire qu'il n'est pas au courant. Quand on est monté au créneau, on interpelle les recteurs d'académie, on interpelle le ministère de l'Éducation, on interpelle les mairies, on interpelle des gens, on fait des vidéos. On n'est pas ni sourd ni aveugle, on exprime des choses. Il y a des collectifs qui se montent, etc. Mais ça continue. Ça, c'est un processus. L'État laisse faire. L'État regarde ce qui se passe. L'État regarde l'état des mobilisations. C'est bon, ça peut passer. C'est pas grave, ils se mobilisent pas les gens, ça peut passer, on va réussir. Vous voyez, c'est des terrains qui...
À qui ça sert et à quoi ça sert?
La discrimination, c'est un processus tout bête techniquement. D'abord, on parle pas de discrimination de pommes ou d'oranges dans un grand magasin, on parle de discrimination d'une certaine partie de la population. Et quand on dit discrimination, et là je vais revenir sur un truc technique tout bête, quoi. Quand on discrimine un produit par rapport à un autre, c'est parce qu'on veut faire passer un produit par rapport à un autre. Par exemple, moi j'ai fait du tri de légumes et de fruits dans l'agriculture. Bon, ben, on met des bonnes pommes et puis on enlève les mauvaises pommes. Parce qu'on juge que la mauvaise pomme, elle n'est pas ronde comme il faut. Elle n'est pas calibrée, elle n'a pas le bon brillant, elle ne va pas se vendre. Voilà, donc quand on discrimine Mohamed ou Mamadou ou qui que ce soit, c'est pour mettre Jean-Pierre ou Jean-Paul. Et c'est bête, c'est dangereux d'exprimer ça comme ça. Ça fait flipper, quoi. Ça fait peur d'exprimer ça comme ça. Mais ça, c'est un phénomène, ça s'appelle un phénomène systémique. Combien de gens habitant des quartiers pourront vous dire que sur la question de l'éducation, quand ils ont été dans des collèges, dans le processus, combien de pourcentages se sont retrouvés dans des voies de garage, ce qu'on appelait à l'époque CCP, les classes pour le... Je ne sais plus quoi. CCPPN, etc.
C'était... Ça veut dire quoi?
Les lycées techniques. C'est l'équivalent des lycées techniques.
Voilà, on réserve des places d'élite pour une population et on garde les places d'ouvriers pour d'autres. Je veux dire, c'est un processus connu. C'est dans une société, l'office d'ouvrier deviendra... Alors, à l'époque, la République avait dit, mais t'es fils d'ouvrier ou d'agriculteur, tu pourras devenir médecin, avocat ou autre, ou agriculteur si tu veux aussi, c'est pas un problème. Mais ça s'appelle l'émancipation sociale. L'émancipation, c'est quoi? L'émancipation de manière générale, c'est de partir d'un état social et puis d'aller vers un autre état social, de pas être cantonné à un état social de pauvreté ou alors de paysannerie ou alors de etc., etc. De pas reproduire parce que... Mais le système tel qu'il est fait tend à reproduire... des systèmes de discrimination, tout simplement. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que sur le domaine de l'islam, on fait rentrer un petit truc idéologique au milieu en même temps, parce que certains ont finalement biaisé le discours en y rentrant la notion de l'islamisme, du danger, de la République, etc. Donc on a fait rentrer une autre donne là-dedans qui fait que l'équation, elle n'est pas claire du tout, finalement. Et pour l'aborder, il faut déconstruire un certain nombre de choses, notamment le rapport à des musulmans qui, aujourd'hui, finalement, ont trouvé, et c'est bien, ont trouvé que dans la République, finalement, ils peuvent, si elles ont envie, porter un foulard ou pas porter de foulard, ils peuvent porter une barbe ou pas porter une barbe. Tout à coup, ils se réapproprient une partie de leur histoire qui était lointaine, parce que les premières générations qui sont venues, leur première préoccupation, c'était pas de construire une mosquée, c'était de nourrir leur famille, de ramener de l'argent peut-être dans leur ville ou leur village en Algérie, au Maroc ou ailleurs, de pouvoir essayer d'assumer la vie ici dans un bidonville ou pas dans un bidonville, etc. Donc leur première préoccupation, c'était pas de type religieuse. La religiosité de cette population, elle est venue à être plus visible finalement avec les générations, parce que les générations se sont établies socialement, intellectuellement, économiquement, et donc se sont réappropriées leur histoire, et dans leur histoire, il y a une partie de religiosité aussi. Il y a une partie de rapport à la spiritualité, à l'islam, et dans cette partie-là, il y a notamment la construction de lieux de culte, des choses comme ça. Donc, et ça, tout à coup, ça a posé un problème politique, un défi à la République. Comment, est-ce que c'est une conquête, pas une conquête? Est-ce que c'est quoi? Faut refaire des croisades? On a tout un discours vachement sécuritaire sur ces sujets-là, que ça soit à droite comme à gauche. Et belliqueux, ouais, comme ça, à droite comme sur à gauche. Et nous, notre problème, c'est que finalement, ces discours médiatico-politiques, ils prennent de l'ampleur, etc., jusqu'à ce que ça se manifeste par de la violence faite à des citoyens, à des individus, notamment des femmes, hein, parce qu'ils ne vont pas s'attaquer aux hommes. Hein. Notamment, en ce moment, on pourra peut-être en parler, on a une affaire à Perpignan, où des mamans, des parents d'élèves aussi, qui sont insultés par une personne à la sortie, mais ça fait des mois. Tout le monde est au courant, personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qu'on... Il y a une citoyenneté à deux vitesses, il y a un droit à deux vitesses, quoi. Il y a une égalité à deux vitesses. Et ça c'est... On cherche plus à le démontrer. Pour nous, c'est un acquis.
Ils ont réussi à faire accepter dans la tête des gens que l'islamophobie, ça pouvait être toléré.
Voilà, tout à fait. C'est un truc... Ouais. Et ça cache, effectivement, pour en revenir à la question de tout à l'heure, ça cache... ça empêche de parler de chômage, etc. Toutes ces questions sociales, quoi.
Mais est-ce qu'ils s'en prennent pas aux femmes? Parce qu'en fait, l'islamophobie, c'est quoi, pour être plus clair, comment reconnaît-on un musulman d'un autre? C'est pas une question simple, hein. On le porte pas sur nous quand on est musulman. Donc est-ce qu'ils s'en prennent pas aux femmes? Parce que c'est quand même plus simple, déjà, le rapport de force, mais aussi parce que c'est visible, quoi. C'est parce qu'elles portent un voile, et ils occultent tout le pan de musulmans, d'hommes, comme ça.
Ouais,
parce que aujourd'hui, une partie de l'islamophobie, j'ai l'impression, se cache derrière un féminisme aussi. Enfin, en tout cas, récupère des notions de féminisme derrière cette question et du coup préfère polariser le débat sur cette question-là, non? Enfin,
La question de l'islamophobie, en fait, elle a cette particularité de quand elle est mise sur le débat public dans des organisations féministes ou politiques de gauche ou humanistes, etc., ou du droit, de scinder les positions, en fait, et puis de faire des pour et des contre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un féministe qui rejette complètement la femme voilée, parce que pour ce féministe-là, la femme voilée, le foulard, c'est la soumission, etc. C'est le féministe de Badinter ou de je sais pas qui, des gens comme ça. Et puis il y a d'autres, Christine Delphi ou d'autres féministes, porteuses du féminisme, qui parlent totalement d'égalité, de vêtements, etc., de liberté de vêtements. Donc c'est une question qui scinde les...
Oui, parce qu'avant, il y avait les hommes qui savaient pour les femmes ce qui était bon pour elles et qui leur imposaient. Maintenant, c'est les femmes qui savent pour d'autres femmes ce qui est bon pour elles et qui disent le voile, non, tu portes-le pas, moi je sais que c'est pas bon pour toi. Faut être à même de sauter
la manière. Il y a de ça,
Oui, et puis se cacher derrière... je revenais à ce qu'on disait tout à l'heure sur pourquoi les femmes les premières ciblées. Cibler les femmes voilées comme étant victimes... victime du patriarcat ou victime de la violence masculine, etc. C'est très pratique parce que ça permet d'invisibiliser tout le patriarcat en place encore, tous les espaces de domination homme-femme ici, chez les petits blancs bien propres là qui ont l'impression que bon c'est bon la lutte a été faite, on n'a plus rien à faire et que voilà ça c'est pas pour rien que c'est encore des femmes qui sont ciblées.
Il y a certainement de ça aussi.
C'est qu'on est on est dans une société patriarcale. En plus d'être raciste, elle est patriarcale.
Comme on est bientôt un peu le débat avance, on va se faire une petite pause musicale. Mais ça me fait penser justement. Donc il y avait des journées de ras le front il y a deux semaines et une personne paraphrasait Bouamama et disait à un moment cette question de l'islamophobie vient faire en sorte de diviser ceux qui devraient être unis et d'unir ceux qui devraient être divisés. Du coup c'est typiquement une stratégie quand on a un pouvoir blanc, un moment d'unir, entre guillemets, de manière artificielle, les blancs entre eux, et de diviser les femmes qui devraient être unies contre le patriarcat, les pauvres qui devraient s'unir contre des classes sociales, etc. Et à un moment, on est ici sur une... Enfin, Tu me coupes si jamais tu n'es pas d'accord, Philippe, hein, mais c'est une analyse que, quand on pose cette question de l'intérêt, en tout cas, du pouvoir.
Voilà.
Petite pause musicale, si les cerveaux chauffent un peu trop, on s'écoute un premier morceau, c'est Riam ou je me suis trompé ? Alors non, c'est Kerry James, La lettre à la République.
Yes.
Lettre à la République, du coup, écrite par Kerry James, et qui parle notamment de cette question de l'islamophobie, voilà, comme héritage de la colonisation.
À tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds. De vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Et c'est donc toujours micro-ondes qui prend les ondes de Kaléidoscope de midi à 14h, le premier, le deuxième dimanche du mois, et puis en rediffusion le reste des dimanches. Autant dire que voilà, vous pouvez nous retrouver donc tous les dimanches sur ces ondes. Vous pouvez nous retrouver tout le temps et même après avoir raté l'émission sur le-tami.info. On est aujourd'hui sur une émission en grande partie consacrée à l'islamophobie avec Philippe donc de la CRI, coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et on a fait une première partie du coup d'interview très intéressante du coup sur l'histoire de la CRI et de l'islamophobie en France. Et là, on rebondit sur une affaire un peu plus actuelle, qui est donc l'affaire Chambi, Du coup, voilà, on présente le contexte. D'abord, on s'écoute juste un petit montage et puis on rebondit après avec notre invité. Voilà, c'est parti.
Oui, sur le dossier, il y a d'abord des aspects de preuve. Il y a le propos qui a été tenu, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là, qu'est-ce qui est fait. Et franchement, on a une personne qui dit oui, c'est lui, il était à la réunion, et nous, on a 5 attestations pour dire qu'il n'y était pas. Donc quand on vous dit, je suis sûr que c'était lui, et puis que ce n'est pas lui, évidemment, ça affaiblit le dossier. On nous dit qu'il y a 2 policiers qui ont entendu le propos, donc 2 policiers, ça fait une preuve parfaite, mais le deuxième policier, il n'a pas entendu le propos, il était dans son bureau, il a reçu une lettre 3 semaines plus tard, et donc il fait son rapport, mais voilà. Maintenant, sur le fond, il y a vraiment la question de la liberté d'expression, et nous, on soutient qu'il doit y avoir le respect de ce qu'on appelle la jurisprudence Andeside, qui est une jurisprudence de 1976, hein, donc il faut vraiment que les gens commencent à s'y habituer, qui est le fait que dans la liberté d'expression, on doit pouvoir, quand c'est des questions d'intérêt général, quand on est minoritaire, quand il y a une cause à faire entendre, on doit pouvoir utiliser des propos qui peuvent choquer, qui peuvent heurter, qui peuvent blesser. Voilà. Et donc ça, c'est pas un point de vue militant, c'est la jurisprudence. Donc si vous faites un colloque, un article, des choses, vous avez un certain type de langage, mais quand vous êtes sur une manifestation, quand il y a la colère, quand il faut contenir tout ça, quand vous êtes une poignée à se faire entendre par des structures, eh bien, on a le droit à des propos qui choquent, qui heurtent ou qui blessent. La question, c'est qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle, à la limite, bon, ben voilà, on n'y était pas. Donc, on ne peut pas se contenter de dire, vous avez dit une chose qui ne va pas. Autrement, c'est une remise en cause de tout slogan lors d'une manifestation. Je suis optimiste, comme quand on quitte le tribunal de Bourgoin-Jallieu, parce que je pense que les magistrats font un travail d'analyse et que le dossier, vu de loin, ils se disent « ah oui, quand même », et puis vu de près, ça ne tient pas la route. Et les militants, ben, ils ont fait le nécessaire.
À chaud, ben, je suis en colère, même si je ne l'ai pas trop exprimé effectivement devant les magistrats pour ne pas aggraver mon cas. Je suis en colère parce que j'ai fait mon travail de militant, j'ai fait que le job, voilà, j'ai fait le minimum. J'ai défendu une famille que personne n'a voulu défendre. Et je défie tous ceux qui écoutent ce message de me prouver que quelqu'un a levé le petit doigt. À part les donateurs que je remercie du fond du cœur, des gens ont donné, il y a eu une grosse solidarité, une grosse émotion effectivement. Mais toutes les organisations qui ont eu vent de cette affaire-là et que j'ai sollicité personnellement, elles n'ont pas levé le petit doigt. Alors aujourd'hui, la moindre des choses aurait été qu'elles soient derrière moi au moins pour dire on est contre la criminalisation d'Abdelaziz. C'est anormal qu'aujourd'hui, en 2018, on ne soit pas capable de faire entendre l'émotion suscitée par une décision comme ça arbitraire. Qui a mis le cœur d'une maman à 100 avec toute la famille, etc. Et tous les traumatismes. Moi, j'ai dit effectivement tout à l'heure, j'aurais aimé que je puisse m'exprimer sur la violence qu'ont subi les enfants le jour où ils ont été enlevés à l'école. Enlevés, pris par la police. J'ai encore dit enlever, voilà. On va encore me faire un procès parce que j'ai dit enlever. Ils sont venus chercher les enfants à l'école en uniforme, des enfants de 4 ans et 5 ans, et ils les ont sortis de l'école devant les autres élèves.
C'est pas la seule affaire comme ça.
Et les enfants qui n'ont pas voulu monter, ils ont pris des coups de genoux à 4 ans et 5 ans pour monter dans le véhicule de police. C'est pas une violence qui nécessiterait des poursuites de la part du procureur. Non. On court derrière le militant Abdelaziz Chambi parce qu'il faut lui faire venir sa gueule pour que les petits frères et les petites sœurs, ils n'osent plus parler non plus. Eh ben non, vous vous trompez, messieurs, dames. On va continuer à parler, on va continuer à ouvrir notre grande gueule et défendre nos droits, même si on doit y passer. Voilà, ça, c'est le message que je leur dis. Et je dis aux jeunes, ne vous faites pas influencer par ce genre de décision. Il faut lutter contre l'injustice d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne de fonctionnaires, qu'elle vienne de citoyens, qu'elle vienne de l'État. Il n'y a pas de problème.
Je souscris complètement à ce que disait Abdelatif, mais en soulignant que il n'y a pas besoin d'attendre demain, parce que déjà aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est là, mais qu'on est aussi sur d'autres actions, déjà aujourd'hui, les militants, les humanistes sont traités comme des délinquants. On le sait bien avec le soutien aux migrants, par exemple, dans le Midi, enfin à Nice, dans la Roya, à Briançon, etc., et même pas loin d'ici.
C'est un procès qui nous a montré quelque chose, c'était très pédagogique. La prochaine fois, quand on prendra la parole en public, on saura comment parler. Oui. Et on dira des choses plus graves encore, mais
bien posé.
Politiquement
bien posé.
Parlant, on sera nickel. Merci en tout cas.
C'est-à-dire qu'on commence par les Arabes, les musulmans, et après on finit par les autres. On connaît la musique. Parce que moi, ma liberté, c'est la tienne. Si aujourd'hui on s'attaque à ma liberté, c'est demain la tienne qui sera attaquée. Les camarades du PEJ, venus de Strasbourg pour la bonne cause, je les remercie très sincèrement de s'être déplacés. Ils ont fait 500 bornes pour être venus aussi assister au procès. Et on les remercie du fond du cœur. On espère qu'on se retrouvera tous ensemble, toutes les organisations, pour continuer à mener la lutte. Parce que c'est une lutte
digne et lutte indispensable pour les libertés dans ce pays.
Voilà, il y a aussi Ralph Ronc qui sont manifestés, ils sont venus apporter soutien, je remercie.
Non, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui se sont déplacées du fond du cœur. Voilà, je vous remercie, je remercie la Ligue des droits de l'homme parce que le représentant des droits de l'homme est venu quand même. Merci à vous. Merci à vous tous.
C'est donc toujours micro-ondes sur le 97 FM Radio Kaléidoscope et en podcast sur letamis.info. On vient d'écouter du coup donc différents témoignages à la suite, à la sortie j'ai l'impression du procès de Abdelaziz Chambi. Est-ce que les personnes qui sont autour de la table, donc toi Abdel tu y étais, Philippe donc de la CRI tu y étais aussi, vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, alors rapidement, oui, c'était. On vient d'écouter quelques témoignages à la sortie du procès en appel d'Abdelaziz Chambi au palais de justice de Grenoble. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur qui est Abdelaziz Chambi pour moi. C'est un militant de la première heure. Il était là à la marche de 83. Il a été là aussi lors de la création du MIB, Mouvement Immigration et Banlieue. C'est un militant de la lutte de l'antiracisme politique de tout temps. Il était là aussi à la création du Forum social des quartiers populaires. Il était là lorsque le FCP, un mouvement politique, a été créé, Force citoyenne populaire. Il est également là lorsque le CRI a été monté, puisqu'on en a le président. La CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Donc c'est un militant de toute heure, toujours sacrifiant ses intérêts personnels pour l'intérêt général. Et c'est d'autant plus dommageable, ce procès qui lui a intenté pour insulte ou à la dignité d'un fonctionnaire, parce que ça ne lui ressemble pas, parce que c'est pas quelqu'un qui attaque les personnes, mais qui attaque un système. C'est d'autant plus déplorable. Les témoignages qu'on a entendus, c'était à l'issue de ce second procès. Philippe Robin, qui est avec nous aujourd'hui, il nous fait plaisir d'être et l'honneur d'être avec nous, va nous expliquer un petit peu ce qu'était l'origine de ce premier procès et du second aussi. Merci Philippe.
Merci. C'est la ferme Sacny qui donne naissance à tout ça, la ferme Sacny de Bourgoin-Jallieu dont on a parlé un peu tout à l'heure. Donc 5 enfants retirés à la garde de leur famille. Alors on est dans le contexte, après les différents attentats, on est dans le contexte de l'état d'urgence, on est dans le contexte où finalement cet état d'urgence il a donné lieu à 3000 perquisitions en France de familles arabo-musulmanes, et 3 seulement mises en examen, et je ne sais pas exactement, peut-être 3 libertés et libérations suite à ces mises en examen. C'est-à-dire qu'on est rentré chez des gens à 5h du matin ou à 23h le soir, on a cassé des portes, on a mis des gens par terre, y compris des vieux. C'est ça l'état d'urgence concrètement, comment ça se passe, c'est qu'on viole l'intimité des familles, des gens qui n'ont rien fait, juste parce qu'on suspecte que, peut-être que, c'est ce qui s'est passé dans la ferme Sacny. Donc la ferme Sacny, c'est... une suspicion, donc les termes exacts pour avoir retiré les enfants à la garde de leur famille, c'est suspicion de radicalisme, voilà. Culture radicale, voilà. Culture radicale, c'est un truc, ça n'existe pas dans le droit français. Pour culture radicale, suspicion, on a suspecté que la famille, vu que le père va aller... alors ce qu'on a appris plus tard, nous, dans cette affaire-là, nous, on ne traite pas l'affaire du père. Ouais. Le père, il ne fait pas partie de l'affaire. Nous, l'affaire, c'est les enfants, on a un enfant de 3 mois retiré au sein de sa mère, etc. Donc la mobilisation première, elle a lieu pour ça. Les habitants et la coordination contre le racisme et l'islamophobie sont manifestés pour ça. Beaucoup d'habitants et la crise ont manifesté pour que les enfants reviennent à leur mère. Après, le voyage du père en Tunisie, la Tunisie, il faut savoir qu'à l'époque, ça peut être ou pas une passerelle pour aller en Syrie. Pour certains qui sont partis en Syrie, ils sont passés ou pas par la Tunisie. La Tunisie, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis de Tunisie pour aller en Syrie avec Daesh. Donc attention, suspicion que peut-être la personne, elle va partir en Tunisie et peut-être elle va partir, tout sur des peut-être en fait. Donc le gars, il a une barbe, sa femme, elle a le voile, le gars, il va à la mosquée, il va en Tunisie, donc peut-être, on ne sait pas, mais peut-être. Donc sur des peut-être, on peut enfermer tout le monde, quoi.
Donc dans le doute.
Dans
le doute, on lui enlève ses 4
donc,
enfants.
Donc ça, c'est ça la pratique de l'état d'urgence.
C'est
donc on enlève 5 enfants. Faut pas dire enlever, excusez-moi.
Oui, il faut dire placer. Voilà. Parce qu'il y a eu tout un débat.
On les place, voilà. Et c'est ça le procès qui est fait donc au fond à Abdelaziz Chambi, c'est que lors de cette manifestation dans les services sociaux, dans lesquels effectivement les services sociaux ont été fermés parce que on voulait pas que la manif rentre, et puis finalement les portes se sont ouvertes parce qu'il y a un agent de maintenance de nettoyage qui, donc tout le monde s'est engouffré dedans, mais c'est pas le CRI ou Abdelaziz qui s'est engouffré, tout le monde est rentré dedans, le public, les assos, tout le monde est rentré dedans, donc c'est normal, on est des militants quoi. Si tout le monde rentre, on va pas rester dehors, non mais allez-y, puis moi je milite dehors. Non, c'est illogique, on est des militants. Je veux dire, c'est quand les gens ils rentrent au MEDEF ou quand ils prennent une usine, ils prennent pas des pincettes quoi. C'est-à-dire, on est en train de parler de droits fondamentaux là. Donc oui, alors Abdelaziz Chambi aurait dit ça, mais c'est lui qui a pris le porte-voix, et il a dit ça, mais il aurait dit, parce qu'on a un témoignage, mais la personne ne l'a pas vu, elle a juste entendu, donc on ne sait pas qui parle, c'est ça le contexte. Donc voilà, il y a matière à procès, parce qu'il y a des mots et des phrases donc, qui sont citées dans le procès, notamment « ceci est une décision islamophobe, rendez les enfants à leur mère, vous êtes des islamophobes », des choses comme ça qui auraient été prononcées, et donc on ne sait pas finalement par qui, parce que finalement il y a un témoin, mais il y a un témoin 1,5, mais il n'y a pas deux témoins, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que juridiquement, le premier procès qui a eu lieu donc en février 2017, il avait donné lieu à un non-lieu. Voilà,
il était relaxé, effectivement.
Il était relaxé, donc après, la période d'appel a duré 6 mois, il me semble. Donc un procureur de la République fait appel. Donc un procureur de la République, c'est la République. Quoi. C'est pas le bonhomme, il s'est levé le matin, il s'est dit, tiens, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, je vais remettre en procès Chambi, tout ça pour le demander. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que dans ce procès-là, la personne, le procureur, donne les mêmes arguments finalement à quelque chose près qui ont été donnés au premier procès Bourgoin-Jallieu. Il n'y a rien de nouveau dans le dossier.
Oui, ils ont permis la relax.
De nouveau. Donc ça, pour ce procès, ce procès en appel, ça sera décision le 7 mars. Mais dans le procès, comme dit l'avocat dans le petit montage qu'on a entendu, il n'y a rien de nouveau. Il y a toujours les mêmes arguments. Il a été prononcé ci, il a été prononcé ça, ou il aurait été prononcé ci. Monsieur Abdelaziz est là, ou il n'est pas là, etc. Il y a beaucoup de flou. Donc c'est le contexte de ce procès en appel.
Moi, j'étais là à ce procès. Et en fait, il y avait déjà eu un procès qui avait commencé avant celui d'Abdelaziz Chambi. C'était celui d'un gendarme suspecté de pédophilie, même un peu plus que ça. Et c'était un gendarme haut gradé, etc. Et j'ai vu les juges, les trois juges, ça c'est mon avis en tant que témoin, ayant une certaine bienveillance vis-à-vis de cette personne-là. Légitime, hein, c'est un individu comme un autre, présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été faite, etc. Donc, une certaine bienveillance et une certaine, comment dirais-je...
Indulgence.
Clémence.
Bienveillance vis-à-vis de la manière de parler, dans la manière d'agir, dans la manière de s'adresser à lui, etc. Et quand le procès d'Abdelaziz Chambi a commencé, une certaine schizophrénie, ou une certaine... névrose s'est emparé des juges, et là c'était à charge, c'était assez impressionnant, c'est que les questions étaient à charge, cherchant le tacle, cherchant l'erreur, et au bout du bout du bout du bout du bout, quand on regarde tout le procès, c'est qu'il a fait d'attouchement sur personne lui, hein. Il a juste empêché, il a juste aidé une maman pour qu'elle récupère son bébé pour l'allaiter, le bébé avait 3 mois, donc jusque là on peut dire que c'est un geste humaniste.
Ouais. Ah oui, il y a quelque chose de...
Mais pour aller plus loin, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a mobilisé 3 juges, un procureur, une autre dame, une greffière. Tout ça, au bout du bout, basé que sur du oui-dire, parce que les principaux intervenants qui étaient à charge contre Abdelaziz Chambi n'ont rien entendu, rien vu. C'est juste des oui-dire. Donc un dossier vide, on mobilise 5 personnes, tout ça... pour demander au bout du bout du bout du bout, demander 800 euros.
D'amende. 800 euros d'amende, oui, effectivement.
Ouais, voilà. Donc c'est pas l'amende qui est importante, c'est de criminaliser les militants et faire peur, si j'ai bien compris.
Ben oui, il y a une notion d'intimidation, comme il s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, comme il se passe pour ceux qui défendent les migrants. On enferme un agriculteur, si je crois qu'il est agriculteur ou pas, peu importe, mais on enferme un gars qui sauve des migrants parce que les gars, ils dorment dehors. Donc tout à coup, il est criminalisé parce qu'effectivement, dans la loi, il y a un article qui dit que, machin, mais il y a un truc spécial, il y a un truc un peu... Quand la loi est mauvaise, on change la loi, quoi. C'est pas nouveau de dire ça. Quand la loi est mauvaise, on change la loi. Quand il y a un truc... On peut pas... Alors, paradoxalement, on peut laisser les SDF dans la rue, c'est pas un problème. Alors, eux, ils peuvent crever dehors parce que, soi-disant, c'est leur libre choix, je sais pas quoi.
Mais c'est
un migrant, non, c'est pas pareil. Un migrant qui dort dehors, on peut pas l'aider. Un SDF, on peut. Un migrant, qu'est-ce qui fait la différence? Et c'est ça qui est intéressant. Que c'est dommage. L'ami militant Kenja aussi, il avait dit un truc intéressant aussi. Il avait dit peut-être que on va faire une société où on a des citoyens d'un côté et des humains de l'autre. En fait, des citoyens, ils sont dans un cadre de droit respectable, hein, tout ça. C'est
une
nation. De droit, quand l'état de droit va bien, moi, je suis pas contre, hein, pas de problème. Hein. Mais voilà, on a des citoyens qui ont un statut social parce qu'ils sont des citoyens référencés. Etc.
Et puis après, et à côté de ça, aussi, hein.
Et des privilèges liés à ce statut-là. Et un ensemble de droits et devoirs, comme on dit d'habitude.
Ouais, bien sûr.
Et puis, à côté de ça, on a des humains qui ne jouissent pas encore de toutes ces prérogatives. Et on peut, par contre, leur marcher dessus, les faire dormir sous des ponts et les chasser à coups de batte de baseball et de gaz lacrymogène, etc. Et en plus, criminaliser ceux qui les aident. C'est bien ça dont on parle aujourd'hui. C'est ça. Donc, ça fait penser, peut-être pour ceux qui ne savent pas, je voudrais dire qu'en 6 mois, là, on a eu deux conférences annulées du CRI. Donc un colloque à l'université, donc avec l'intervention d'Abdelaziz Chambi à Lyon, un colloque annulé, donc un colloque dans le milieu universitaire. C'est pas une salle de spectacle, une salle d'association dans un quartier. C'est que là, on va parler de ces sujets-là dans le milieu universitaire, avec des universitaires, avec des journalistes, avec François Burga, chercheur au CNRS. On va mettre ça sur la table universitaire. Et on veut pas que ça arrive à ce niveau-là. Il faut que ça reste un truc de quartier, une assoce, une radio, un machin qui va pas plus haut que ça. Mais si on l'amène à la table de universitaire intellectuel en France, ça veut dire que c'est une question qui peut être reprise de manière traditionnelle, universitaire, intellectuelle, par des gens qui sont
froid.
Pas à froid, par des spécialistes, et puis des gens qui sont des sociologues, des politologues, des historiens, qui pourront faire ce travail complémentaire. Et cette analyse. Et il y a eu donc un colloque aussi où Abdelaziz devait intervenir. Bon, ça, c'est les participants de ce colloque qui l'ont refusé parce que trop dangereux, soi-disant, dans le discours, etc. Ils ont, et puis, il y a eu aussi, il me semble, un colloque du pire qui a été interdit il n'y a pas longtemps. Donc, dans les 6 mois, ça fait quand même 3 interdictions. On parle de la France, quoi. On parle de la France, on parle de s'exprimer dans des universités, on ne parle pas de... On va pas casser ou brûler des pneus. On n'est pas dans ce cadre-là. On est dans des revendications politiques, dans un discours politique. Donc voilà.
Mais c'est justement ça. C'est que tant que vous brûlez des pneus, etc. Bon, non seulement c'est illégal, mais en plus c'est facilement délégitimé. On peut dire ok, ils savent pas ce qu'ils font, etc. C'est n'importe quoi.
Et puis ça sert les médias, les trucs à sensation. Ça active tout le fantasme qu'on a sur les quartiers.
Et ça reste dans les quartiers aussi.
Et ça reste dans les quartiers. Donc c'est très bien.
Ce qui gêne, c'est à partir du moment où, en effet, ça arrive dans les universités. J'ai entendu aussi que... Alors, je ne sais plus comment s'appelle la femme. Peut-être vous allez m'aider, mais en tout cas, une...
Jouda.
Non, alors peut-être au niveau vraiment du gouvernement qui a défendu notamment l'événement festival en non-mixité à Paris et qui depuis s'est fait renvoyer du gouvernement. Enfin, elle devait intervenir derrière dans une commission et elle s'est fait écarter dans une...
C'est Rokhaya Diallo ?
Voilà. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, donc Rokhaya Diallo.
Voilà.
Je m'excuse. Mais c'est pour dire que c'est à ce moment-là, c'est au moment où ça arrive, en effet, dans les hautes sphères, ou en tout cas dans les sphères qui sont légitimées habituellement, que ça gêne vraiment, j'imagine, ce genre de débat. Et en même temps, c'est bon signe que du coup, ça commence à arriver ou que vous soyez invité.
Oui, c'est intéressant d'aller faire ces débats dans ces sphères-là, puisque c'est des gens qui vont porter demain un discours de journaliste ou d'écrivain, de sociologue, de politologue, et ça ne sera pas que des militants qui continueront leur travail de militant, ça sera des gens qui sont dans d'autres sphères et qui pourront... écrire des bouquins, etc. Ça sera des sources reconnues. Mais ce travail a déjà été fait, si on veut, mais il est toujours un peu dans des petites sphères. Il y a quelques sociologues, Marwan Mohamed, qui est un sociologue aussi, donc qui a écrit des livres. Il y a François Burga aussi qui part sur la question. Sur la laïcité, on a eu ça fait 2 décennies qu'on écrit des bouquins. Je dis on de manière large, quoi. Des spécialistes ou pas. Voilà. Donc c'est important, c'est que cette lutte politique là, cette criminalisation de cette lutte, elle vise aujourd'hui des profils très différents, en fait. Et autant Rokhaya Diallo qui est dans un gouvernement, autant Abdelaziz Chambi qui est militant, autant tel colloque qui se fait annuler. Donc on est dans une espèce de chasse aux sorcières. Et c'est là le cœur du sujet, en fait. C'est là le cœur du sujet, parce que il y a des sujets qui pourraient être disqualifiés ou qui pour ne pas être audibles du grand public ou des spécialistes, il faut les éliminer en quelque sorte d'un discours universitaire, d'un discours officiel, et puis ne pas reconnaître les luttes, c'est-à-dire lutter contre discréditer les gens, disqualifier les gens en leur mettant des étiquettes. Ça fait longtemps que c'est comme ça. On appelle quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est ça le proverbe d'habitude. Donc nous, on nous a mis des étiquettes d'islamistes il y a 10 ans. J'étais étonné de voir ressortir ça, cette étiquette islamiste, il n'y a pas très longtemps dans un journal en parlant d'Abdelaziz. Donc oui, Abdelaziz, militant islamiste, etc. Pour moi, c'était le langage des années 90 ou 2000 quand on traitait les militants musulmans d'islamistes parce qu'on voulait pas les entendre, alors on mettait des istes de partout, quoi. Et puis là, je vois ressortir ça, je dis, mais les gars, vous avez plus d'arguments, là, faudrait passer à autre chose, quoi. Faut vous renouveler. Alors c'est sûr, maintenant que vous êtes arrivé jusqu'à terroriste, on peut pas aller plus haut, quoi. Voilà, non, mais le truc, c'est que cette lutte-là, elle est pas finie, elle continue. Cette lutte contre l'islamophobie, c'est juste un créneau de ces luttes d'émancipation, de lutte pour les libertés. Et c'est pour ça que c'est intéressant que les mouvements militants se rassemblent pour parler des sujets sur lesquels ils sont spécialisés. Parce qu'on ne peut pas se spécialiser de partout. On a chacun des spécialités. Il y en a, c'est sur le logement. Il y en a, c'est sur l'éducation. Il y en a sur les migrants, le travail, le droit au travail. Il y a des choses qui sont passées dans le droit au travail. On a fait passer ça, justement. Il y avait encore un truc d'islamiste, de terroriste, je ne sais pas quoi. Donc, le truc du travail, il est passé tranquillement. Oui. Il y a des choses qui passent, même encore sur la laïcité. C'est encore une argumentation dans le droit du travail. La laïcité, une espèce de neutralité du travailleur. Moi, ça me rappelle que, enfin, il faut se rappeler, dans les années 60, 70, à Caterpillar, à Peugeot, à Citroën et tout, les gars, ils faisaient leurs prières, ils travaillaient, ils faisaient leurs prières dans l'usine, ça posait pas de problème. On était dans le même pays, quoi, c'était la France. Ouais, quoi, ouais. Tu vois. Donc aujourd'hui, tellement ce combat il a été fait, comme on a dit, contre la visibilité, finalement, qu'on a fait passer pour de l'activisme. Une femme avec un foulard, oui, parce que c'est l'étendard de l'islamisme, une femme avec un foulard. Ouais. C'est une idéologue qui se cache, etc. Donc, en fait, c'est juste une femme, elle a envie de s'habiller comme ça parce qu'elle y croit, quoi. Voilà. Mais elle peut travailler, dans ce cas, elle peut avoir un job, elle peut. Ouais, le gars qui fait la prière parce qu'il pense qu'il doit faire la prière à l'heure, c'est comme ça. Mais dans toutes les religions, il y a une espèce de truc de spirituel qu'il faut essayer de suivre parce que sinon on se sent mal, quoi. Voilà, c'est comme si on mange pas deux fois par jour, peut-être on maigrit, j'en sais rien, tu vois. Donc, c'est une hygiène de mental, comme il y a l'hygiène du corps ou l'hygiène de l'esprit, etc. Donc, mais aujourd'hui, parler de ça, ça devient difficile. Parce que finalement, avec tout le discours idéologique qu'on a fait pendant 20 ans sur cette question, si on dit, peut-être que des citoyens, qu'ils soient musulmans, que ce soit des chrétiens ou des juifs, des athées, peu importe, il a besoin d'une salle dans la journée pour faire des trucs. C'est de la gym, de la méditation, sa prière, sa lecture. Tout à coup, si on rentre par ce biais-là, on dit, ouais, mais ça, c'est encore un coup des islamistes, ils veulent avancer un petit peu. Mais il faut savoir que, alors c'est peut-être pas un exemple, parce que le milieu anglo-saxon, le milieu américain, au niveau de l'économie, du libéralisme, c'est pas forcément un exemple. Mais il y a quand même un cadre de liberté qui est à l'intérieur de l'entreprise, qui est beaucoup plus large qu'en France. Il y a quelqu'un qui peut aller se mettre dans un coin, faire sa prière dans le milieu anglo-saxon, ça pose pas un problème idéologique. C'est pas un danger de la République. On n'est pas en train de mettre à mal l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis parce qu'on a fait deux génuflexions dans un coin. Et donc en France, si on peut pas aborder cette question-là de manière simple, c'est honnête, sincère, pour ce qu'elle est réellement, pas avec des sous-entendus comme quoi le Qatar est en train ou je sais pas quel islamiste groupe machin qui est en train, alors parce que le Qatar lui il peut investir tranquillement dans les multinationales françaises ou avec de l'argent, racheter des clubs, racheter la Tour Eiffel, ça pose pas de problème parce que c'est du libéralisme économique. Mais si jamais un musulman citoyen depuis 3 générations en France lui demande peut-être s'il peut faire sa prière dans un coin, ça pose problème. Et là c'est grave parce que et c'est pour ça que ce truc là il est idéologique, il est politique. Et c'est là qu'il faut faire converger des luttes pour essayer que les gens se soutiennent et que les luttes se soutiennent, qu'on
soit solidaire
sur la question des migrants, qu'on s'entraide sur la question du logement,
Et qu'on évite cette division.
C'est balkanisation des luttes, on appelle ça balkanisation. Ouais. Chacun lutte pour son petit truc parce que finalement,
Et ça, qui c'est... n'a rien à voir avec Balkany, avec Patrick Balkany.
Non. Divisé pour mieux régner, c'est ça. Hein, c'est la doctrine de Machiavel, divisé pour mieux régner. Donc tant que vous parlez, vous êtes tout seul dans votre petit coin, on pourra toujours vous taper dessus. Mais si tout à coup vous êtes tous ensemble, peut-être que vous allez arriver à faire avancer des choses.
Donc, les intérêts convergent.
Les intérêts convergent. Et je pense que c'est important parce qu'on est dans une phase préélectorale. On ne la sent pas encore venir, mais on y est toujours dans les phases préélectorales. Mais 2020, c'est les municipales. 2020 ou 2021, selon qu'elles sont repoussées ou pas. Mais 2020, c'est une période électorale. Une période électorale, ça se construit maintenant. Ça se construit pas en 2020 à se dire, tiens, on va demander un truc pour notre assoce. On demande pas des droits spécifiques. Les associations qui luttent pour des droits, elles demandent pas des droits spécifiques pour des gens. Elles demandent que soient appliqués des principes, que des justices sociales soient... Ouais. Excuse-moi.
Ah, pas de souci, Philippe, okay. Merci beaucoup. En fait, l'émission touche à sa fin. Mmh. Je note bien que tu parles de convergence des luttes et que c'est un peu à tout le monde, autant aux universitaires, de se rapprocher des collectifs comme le tien, de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, pour pouvoir créer de l'ensemble demain, aux premiers concernés, aux premières concernées, de se mobiliser aussi. Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux à...
Il y a une phase d'apathie, d'invisibilité, de fatigue suite à la loi, plusieurs lois contre le foulard, je les appelle lois contre le foulard, je fais exprès, c'est un terme militant, mais et puis aussi l'état d'urgence, et puis aussi les attentats, et puis aussi d'être constamment pointé du doigt, et puis les gens ne disent plus rien, les gens n'ont plus aucun, ils n'ont pas d'outils. Premièrement, il faut des outils pour agir, il faut des outils associatifs, il faut une doctrine politique, il faut une pensée, il faut exprimer des choses, il faut construire, et ça c'est pas facile parce qu'on est des militants, on n'est pas payé pour ça. Il faut prendre sur son temps, il faut se former, etc. Donc il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui est immédiatement accessible aux gens concernés pour agir. Et donc devant tout ça, forcément le gars il va pas, ou la femme elle va pas sortir avec son étendard toute seule en disant ouais moi j'ai un problème. Non,
à leur décharge, il faut aussi dire qu'ils vivent dans une certaine précarité avec l'urgence de survivre et de manger, de travailler, etc. Donc, ils ont peut-être pas forcément les outils, mais nous en tant que militants on peut s'organiser porter des luttes collectives.
Il faut faire connaître les outils existants. Et pour ça, il faut que les assos et les orgas se soutiennent entre elles. Je pense que c'est un pas, par exemple, avec Ralfront, avec d'autres organisations, avec le FIQP, avec d'autres orgas, de faire des liens et de mettre en visibilité ce qui existe, parce que notre problème chez les militants et dans les mouvements et les organisations, c'est la transmission des expériences, la transmission du savoir. C'est une chose très difficile et c'est là-dessus qu'il faut agir pour qu'une génération qui vienne ne réinvente pas la poudre et ne se trouve pas tout à coup en train d'essayer de réinventer une doctrine ou de parce que les analyses, elles existent depuis... Il y a un suivi de tout ça, il y a un suivi chez les militants et peut-être que c'est ça qu'il faut faire vivre. Voilà.
Vous avez un
clairement,
site,
merci beaucoup. Ouais, une page
vas-y. Bah, il y a la coordination, donc crifrance.com sur Internet. Vous trouverez éventuellement, pour ceux qui veulent connaître un peu plus Abdelaziz Chambi, donc le président, des vidéos sur son parcours personnel, et puis aussi des vidéos de la coordination, les luttes qu'on mène, et puis des liens vers d'autres associations aussi. Voilà.
Ok, super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est pas complètement la fin de l'émission, comme le disait Abdel, mais c'est plutôt, en tout cas, la fin de l'interview. Et justement, on continue donc une petite demi-heure avec deux autres sujets. Le montage est donc sur la lutte des universitaires actuels contre la loi Vidal. Et ils vont nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Et puis, ce sera donc enchaîné sur une chanson de Riam, une rappeuse qui s'appelle Spuck Aufrecht.
Oui, donc on poursuit avec un tout autre sujet, comme le disait Baptiste, qui est celui de la réforme de l'université et du bac, qui répond au joli nom de loi orientation et réussite des étudiants. Donc on est aujourd'hui au tout début d'une mobilisation qu'on l'espère ne cessera pas de grandir et qui réunit lycéens, étudiants et personnels de l'enseignement contre cette réforme qui veut instaurer notamment la sélection à l'université, entre autres propositions sympathiques. Et donc il y a déjà eu plusieurs mobilisations qui ont eu lieu à Grenoble et partout en France. Donc le premier est le 6 février et donc on écoute maintenant ce montage des étudiants à la veille de la première manif qui a donc eu lieu le 1er février lors d'une AG sur le campus.
Donc on est en lutte contre ce qu'on appelle le plan Vidal, donc le plan étudiant, qui rassemble à la fois la sélection à l'entrée de la fac, donc qui fait que les lycéens, leur bac ne leur suffit plus en fait pour rentrer à la fac. Ils auront besoin CV, lettres de motivation, de prérequis qui sont parfois très nettes, comme une certaine moyenne à une certaine matière au bac. Mais ça peut être aussi, par exemple, s'intéresser au monde qui s'entoure. Donc ça va faire une vraie sélection, donc déjà sur les moyennes, mais aussi sur tous les lycéens qui ont la possibilité de s'engager dans des associations à côté, de faire du périscolaire, tout ça, vont être très avantagés sur les autres. Du coup, ça crée une vraie discrimination sociale, en fait, sur la possibilité d'entrer à la fac.
En plus de cette sélection très discriminante à l'entrée de la fac, on aura aussi, dans la fac elle-même, la fin de la compensation. C'est-à-dire que si on a un 8 et un 12 à deux épreuves différentes, normalement le semestre est validé, ça fait 10 de moyenne et ça passe. Ça risquerait d'être supprimé. Aussi également les rattrapages de deuxième session, qui permettent à beaucoup d'étudiants de s'en sortir. Donc du coup, ces deux éléments-là, ajoutés à la sélection en licence, s'inscrivent dans un processus de long cours, qui est l'austérité à la fac, c'est-à-dire des millions d'euros, 330 pour être exact, qui sont retirés à l'enseignement supérieur, ce qui entraîne des suppressions de postes de professeurs, donc moins de moyens pour encadrer au mieux les étudiants qui arrivent en licence, donc au final moins de places d'étudiants, donc la sélection, donc la suppression de la compensation.
Il y a de plus en plus de bacheliers, donc il y a de plus en plus de gens qui sont en demande d'aller à la fac, du coup ils restreignent les budgets, et donc on va avoir plein de nouveaux bacheliers qui vont pas avoir de possibilité de faire des études. Sur la fusion des universités, en fait, ça a créé un vrai problème, parce que du coup ils ont voulu fusionner pour avoir une énorme fac qu'ils ont appelée une fac d'excellence. Résultat, il y a des coupes budgétaires qui sont énormes, parce qu'il y a des UFR qui perdaient de l'argent alors que d'autres en gagnaient. Du coup ils ont égalisé ça sur tout le monde, et donc on se retrouve avec tous les UFR, toutes les composantes de la fac qui doivent rendre des postes de prof ou de personnel ou d'ici 2020. Donc il y a un vrai plan d'austérité sur 3 ans qui a été mis en place, et du coup ça passe aussi avec la fermeture des bibliothèques. Alors ils vous diront que c'est pas une fermeture mais une recomposition, mais en gros ce qui se passe c'est que les bibliothèques de composantes vont être transformées en ce qu'ils appellent des learning centers, donc des espaces avec des ordinateurs sur lesquels on pourra aller faire des choses sur des ordinateurs, avec donc tous les livres qui seront rassemblés dans les deux grosses BU, donc la BU droit lettres pour toutes les sciences humaines et la BU sciences dures. Donc ça fait que toutes les composantes vont perdre leur spécificité, vont perdre l'ambiance qu'il y a à la bibliothèque, et qui fait que les étudiants se retrouvent dans un endroit qui leur est familier, dans un endroit qui est propice au travail et qui va pas être blindé de monde, parce que du coup, puisqu'il y aura plus de bibliothèque ailleurs, tout le monde ira au BU central, et voilà, ça remet en cause complètement les conditions d'études, alors que c'est un immense mensonge, parce que le budget d'une BU sur l'année, ça doit être 10 000 euros, et que les 10 000 euros, ils les ont, et que les thunes, elles existent, et voilà, c'est pour ça qu'on lutte contre ça aussi.
L'austérité oblige, ça va également entraîner la suppression d'emplois de bibliothécaires. Encore une fois, le discours managérial vient jamais seul, l'austérité est toujours derrière, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé donc avec potentiellement à l'Université de l'Aide de Stendhal près de 6 emplois étudiants qui pourraient disparaître, à l'Arche aussi pour l'histoire, et voilà. Et la présidence de l'Université de Grenoble joue ce jeu-là, en étroit lien avec le gouvernement.
La question qui nous est posée n'est pas que la question de la sélection à l'entrée de l'université, c'est tout, non seulement c'est l'avenir de ceux qui sont dans la position de l'autorité en train de passer le bac, qui vont bien se faire, mais c'est un redéploiement total de la formation.
C'est un appel des travailleurs du secondaire, donc enseignants, personnels, qui vise à défendre surtout le fait que le bac reste unique, parce que c'est aussi l'une des mesures, c'est la disparité du bac qui sera modulable selon l'établissement, créant ainsi des établissements d'excellence. On aura vraiment besoin de les soutenir sur ce combat-là, étant donné qu'un lycéen qui arrive avec un mauvais dossier à la fac deviendra l'une des personnes qu'on aura à défendre, qui aura à défendre sa licence poubelle, entre guillemets. Désolé d'employer ce terme-là, mais c'est un petit peu aussi ce que le système veut créer. On aura à défendre cet étudiant-là quand il voudra accéder à un master avec une mauvaise licence, avec un mauvais bac. Du coup, tout se tient.
Mais derrière, les conséquences,
c'est pas uniquement pendant les études. Ça veut dire que derrière, c'est des conséquences sur toute notre vie dans le travail, en fait. Des diplômes qui ont moins de valeur, qui ne nous permettent pas de travailler dans des bonnes conditions, de pouvoir revendiquer un grand salaire. Du coup, en fait, je pense que c'est hyper important de se mobiliser maintenant. Si on arrive à faire reculer cette réforme-là, on est gagnant sur toute notre vie. C'est dans le cadre de l'austérité mise en place par le gouvernement. En fait, là, on est face à un gouvernement de combat au service du patronat. On l'a bien vu avec la loi travail numéro 2 qui a détruit encore plus le droit du travail. Mais c'est aussi les attaques en fait sur les attaques contre les salaires, contre les retraites, contre la santé, contre les universités.
On avait proposé un plan, que dans un premier temps, on parle de demain, parce que le 1er février, la journée nationale est demain. Donc ce 1er février, c'est donc un appel commun avec les lycées, donc à discuter comment on l'organise.
Alors pour s'organiser face à ça, là, on était aujourd'hui... encore un nombre assez modeste, puisqu'on était 60-80, voilà, dans ces eaux-là. Okay. Et faisant aussi donc, des syndicats, dont celui dont je fais partie, qui s'appelle Solidaire Étudiant. Il y a aussi d'autres syndicats, comme par exemple l'UNEF, la CNT aussi.
La JC et la UEC Grenoble.
Et d'autres partis politiques aussi qui étaient présents, ainsi que des syndicats de personnel qui sont venus se présenter pour les professeurs et l'ensemble des personnels de la fac. Il faut savoir que les lycées se mobilisent aussi, se mobilisent beaucoup même, avec la participation d'autres organisations comme les syndicats lycéens, comme l'UNL, d'autres organisations politiques comme la France Insoumise, etc. Si tous ces acteurs, syndicats professionnels, syndicats étudiants, organisations politiques se regroupent, on pourrait imaginer des belles choses, notamment demain, une manifestation qui doit converger jusqu'à Verdun, qui pourrait être aussi moyen d'envoyer un signal fort, de démarrer cette mobilisation qui aurait peut-être une chance de créer un nouveau CPE, de montrer une nouvelle fois que les jeunes sont assez opposés à l'idée d'être une chair à canon pour les plans libéraux qui visent à instaurer l'austérité de partout.
Et en fait, de partout, c'est les gens, ils sont en train de s'énerver. Encore, c'est hier, il y avait les mobilisations dans le secteur de la santé, dans les EHPAD. Demain, ça sera dans les universités où ça se mobilise. Donc, il y a le 6 février où il y a un appel à la grève, soit dans les universités, dans le secondaire également. Dans les universités, partout en France, il y a des mobilisations comme nous aujourd'hui. Il y a eu des assemblées générales particulièrement nombreuses. Où il était plus de 500, que ce soit à Toulouse ou à Paris 1. Le 1er février, ça va être une date de mobilisation nationale. En fait, nous, il faut qu'on s'inscrive dans cette mobilisation nationale. Pour nous, en fait, demain, ça va être la première étape pour un mouvement d'ensemble, pour mettre en échec le gouvernement et cette attaque contre nous.
Merci. Nous sommes à l'amorce d'un mouvement à Grenoble. Vous savez qu'il y a déjà eu deux moments de mobilisation à l'échelle nationale. Samedi dernier, pour la première coordination nationale de l'enseignement, ça s'appelle le CNE. C'est important, je crois, que ce soit sous cet intitulé-là. Nous avons connu, pour les années, des mobilisations importantes en 2008-2009, et à l'époque, il y a eu une coordination nationale des universités. Le fait que cette coordination ait choisi de s'appeler coordination nationale de l'enseignement pointe évidemment la volonté non seulement de travailler nous, étudiants personnels, dans le sein de l'université ensemble, mais d'aller aussi travailler avec nos collègues et nos disciples du lycée, du collège.
Et du coup, pour le premier, demain, ce qu'il y a, c'est une manif d'anciens et d'étudiants. Donc l'idée, c'est qu'on se part pour ça. Donc pour info, je ne sais pas si ça a été dit, mais demain, on va essayer de bloquer le maximum de lycées possibles sur l'agglomération. L'UNL bloquerait déjà le lycée à Rouge. Un autre peut-être, on ne sait pas.
Donc vous prenez ces propositions-là. Je ne sais pas s'il y a des réactions sur ce qu'il y a noté au tableau, je pense qu'on allait à lire.
Participation à la manif, agir après la manif, détacher des gens sur les lycées et aller au rectorat.
L'organisation du rendez-vous
de la veille, est-ce qu'on débraye des amphis ou pas? Pour tous, AG, une première AG, c'est réussi. Je veux dire, on a un bon noyau militant. Et ça, c'est primordial pour pouvoir avancer rapidement, ce noyau militant qu'on a là. Et du coup, voilà, c'est super cool si on peut militer déjà avec ce qu'on est là, pour grossir ce mouvement, tout ça, ça donne de la force.
Alors les prochains rendez-vous, donc on a la manifestation du 1er février qui est demain, donc avec a priori 4 lycées qui vont être bloqués sur Grenoble, et donc un cortège étudiant qui va partir du campus pour aller jusqu'au rassemblement qui est prévu avec les lycéens à Verdun, et du coup la manif du 6 février qui a été appelée par le secondaire.
Dédicace au Patio Solidaire qui permet sur la fac, encore une fois, malgré ce que la préfecture et les pouvoirs publics voudraient faire passer, à animer un lieu où habitent des personnes qui sont sans papier, sans logement, mais qui ont maintenant un endroit pour tenir le coup et s'organiser jusqu'au printemps, jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Donc du coup, là pour le coup, l'université a fait son travail, leur a permis d'avoir un endroit où s'installer. Donc nous saluons les militants, les personnes qui là-bas s'organisent, les gens concernés aussi qui sont très organisés entre elles pour créer un espace qui se respecte avec de quoi manger, de quoi vivre, de quoi parler autour de soi, de ce lieu aux étudiants qui passent. Du coup, espérons que le patio tienne longtemps. Skipping all those days with the racist comments to black it out. I don't really wanna remember, but let me scream it out. I was born in London, I scream it to EDO, I'm proud. I don't see no color of skin, it ain't what it be about. We all got the same things running through our veins, mate. You wasting your time on that thing we call hate. Racist slurs and names up in the football games. You wait and never wanna stop the match for any sake. When money comes before their mind, cause all their hands just wanna take. It's crazy cause I'm so fed up of all the fucking fakes. Cause hardly anybody's put their heart up on a stake. I ain't living by my mind, I'm living by my heart for life.
C'est donc toujours micro-ondes sur Kaleidoscope 97 FM qui est du coup, voilà, on est ensemble donc de midi et demi à 14h et c'est donc bientôt la fin. On voulait simplement, donc on vient d'écouter un montage en manifestation, en assemblée générale et en interview de personnes du coup à la fac et qui parlent de leur mobilisation contre la loi Vidal. Il y avait un peu des réactions autour de la table sur cette question, je crois.
Oui, si on a 2-3 minutes quand même pour réagir, parce que pendant que le reportage y passait, on était en train de se dire que concernant le sujet précédent, on était toujours en train de cibler le même ennemi, le capitalisme, avec ses mécanismes, et on arrive très bien à les identifier, à les nommer. Là, les gens dans l'AG témoignent, tous les témoignages le ciblent, le nomment, nomment les mécanismes. Sur le sujet de la semaine dernière, c'est pareil. Bon, voilà, à un moment, c'est vrai que c'est là-dessus qu'on échangeait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde? Alors, je voudrais juste revenir quand même par rapport à la question de l'éducation. Tous ces mécanismes-là qui sont quand même en place et lancés depuis les années 94-95 sur la notion de compétences où on découpe les savoirs en micro, en micro-bout, comment on a découpé le travail, et tout ça, c'est la même structure qui fait qu'à un moment donné, on découpe le sens, on enlève le sens aux gens et on fait un espèce de truc où, comme le dit un étudiant, on devient de la chair à main pour le capitalisme, en fait, et pour les entreprises. Mmh. Et donc, c'est contre ça contre lequel on lutte.
Ouais. Ouais, Tout à fait. je souscris, j'avais entendu, j'en dis ce que j'ai dit tout à l'heure en aparté, mais j'avais entendu un sociologue qui disait que le système éducatif français, peut-être pas uniquement français, je ne suis pas spécialiste ni de cette question en France ni à l'étranger, mais fabrique, ce système éducatif fabrique des personnes employables. Donc voilà, c'est un système qui est fait de telle manière de trouver 30% de compétences ouvrières, 15% de compétences médicales. On est dans une espèce de reproduction d'un système. Et c'est bien que des étudiants, les premiers ciblés par ce processus, quoi, et les lycéens aussi, parce que moi, personnellement, mon fils, il va passer le bac, donc il est en plein dans ce logiciel de Parcoursup. Donc dans Parcoursup, le logiciel qui est ciblé, donc en partie par les manifs et le processus de loi qui va derrière, c'est de saucissonner des compétences, des choix, etc. Et puis d'arriver à la fin à faire de la sélection sur l'entrée à la fac. Donc,
Et puis ça fait en sorte que plus un individu est en possession d'un savoir global ou en possession d'un métier ou en possession de... En saucissonnant les savoirs comme ça, on le rend complètement vulnérable puisqu'il n'a pas la globalité de ce à quoi va servir son savoir. Il a juste un petit bout. Et on a exactement, il y a eu exactement la même chose pour les bacs technologiques. Bon, tout le monde s'en contrefoutait à l'époque, hein, mais les bacs techno, les CCF, concours en cours de formation et tout ça existe depuis longtemps. Il y a des avantages, ça c'est vu, hein, il y a des avantages en termes d'apprentissage. Mais par contre, il y a eu par ces bacs et puis par les transformations de la formation professionnelle,
Un saucissonnage,
un découpage, c'est pas seulement que, je sais pas comment expliquer ce truc, mais en nous privant de ça, on nous prive aussi de la capacité à penser notre production. Et donc du coup, à avoir tout esprit critique sur la production, tout est lié là-dedans. Et on va bientôt naître uniquement pour s'insérer dans la société et trouver une place. Et comme parcours de vie, c'est triste.
C'est là que le capitalisme a réussi à enlever petit à petit, hein, parce que finalement les luttes marxistes de 1850, le discours c'était de se réapproprier l'outil de travail et de production et d'être possesseur aussi de la production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est encore vrai, un ouvrier qui fabrique des bagnoles, il achètera une bagnole comme tout le monde, quoi, même s'il la produit lui-même, quoi. Malgré que ce soit des chaînes qui fabriquent de plus en plus les voitures. Donc, l'aspect humain là-dedans, l'aspect profondément humain, c'est-à-dire de nature humaine, parce que moi, je crois à la nature humaine. D'autres ont un processus de nature qu'ils appellent ça la culture. Moi, je fais la primauté sur la nature humaine. Ce processus-là, il est enlevé dans l'ère industrielle moderne. C'est pas le premier facteur. Or, dans l'humanisme, si on dit que l'ère moderne a vu naître l'humanisme par 1789, déclaration des droits de l'homme, et si on se base là-dessus, si on sait ça notre espoir pour l'humain, alors l'humanisme, c'est l'humain qui est au centre, c'est pas le CAC 40,
c'est pas le produit,
c'est pas la plus-value, c'est pas le bénéfice, c'est pas ça qui est le but. Mais si l'humain devient la même chose qu'un outil de travail pour du capital, à ce moment-là, c'est vrai que je pense qu'il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter. C'est-à-dire que on est dans le même processus que les Indiens, du sous-continent indien, colonisés par les Anglais. Ils n'ont pas fait des guerres, ils n'ont pas fait. Enfin, si, il y a des luttes, bien sûr, mais je veux dire, au bout d'un moment, ils se sont arrêtés, quoi. Ils ont dit non, mais ça suffit, nous, on ne produit plus pour vous, ça suffit. Débrouillez-vous, tu veux envoyer un courrier, envoie-le toi-même, prends le cheval et traverse toute l'Inde pour envoyer ton courrier. Tu veux du thé, plante-le toi-même et récolte-le toi-même. Ça suffit, je ne travaille plus pour toi. Je ne suis pas d'accord avec ton système. Ce système qui met le capital comme primauté, la hiérarchie de l'argent par primauté, je ne suis plus d'accord avec. Et voilà. Après, je ne dis pas ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est pas une solution soi-même. C'est de dire qu'il y en a un obstacle majeur. Ça fait 150 ans qu'on est dessus, ça s'appelle le capitalisme. Les luttes, elles ont changé. C'est pas parce qu'on est contre le capitalisme qu'on est forcément marxiste. Il y a des luttes protéiformes. Ils luttent différemment en Amérique du Sud, en Orient, etc., contre cet ennemi de l'être humain. Mais cet ennemi a cette particularité d'arriver à attaquer l'être humain petit à petit dans son individualité, jusqu'à changer même son rapport à lui-même, son rapport à sa communauté,
sa conscience de lui-même,
ses idées, etc. Et son devenir, finalement, c'est le devenir humain qui est en danger.
L'heure tourne. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Jeanne?
Non, mais c'était juste pour revenir qu'à l'école, on fera un sujet global quand même. On prendra le temps, on prendra une émission entière pour parler du système scolaire, de ce que ça produit.
Voilà. Carrément, parce qu'on se sent là, en effet un peu frustré là d'aborder ce sujet.
On a envie de parler aussi de tous les gens qui décrochent de l'école bien avant, parce que ça produit des futurs travailleurs qui n'ont pas la maîtrise de grand chose, mais ça produit aussi des gens qui sont exclus complètement de l'école et donc du savoir. Et c'est tout ce savoir qu'il faut retrouver.
Ouais, l'heure tourne, on est toujours donc sur micro-ondes et on part sur une autre lutte du coup un autre reportage qui a été fait. Et cette fois-ci, il s'agit du coup d'une mobilisation organisée par des Soudanais à Grenoble contre la mise en esclavage en Libye et contre la dictature aussi au Soudan. Et du coup, on est allé, samedi dernier sur la place Victor Hugo, voilà, c'était à 10h et on espère donc que cette mobilisation sera suivie d'une autre. On l'écoute tout de suite le reportage.
شهر عشر حباب شهر عشر حباب ابقوا عشر على المبادئ ابقوا عشر على المبادئ.
Nous sommes aujourd'hui on a fait un rassemblement contre le régime dictatorial du Soudan qui a passé plus de 30 ans au pouvoir, qui réprime les Soudanais. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et en plus, on a des frères qui se trouvent en Libye, qui se sont emprisonnés, pris en esclavage, torturés. Et le régime disait que ce ne sont pas des Soudanais. Donc on ne sait pas quoi faire en ce moment. Et ils n'ont pas le choix. Une fois sortir en Libye aussi, c'est encore l'enfer. C'est l'enfer vraiment que les Soudanais vivent en Libye.
Dégage, dégage, monsieur, dégage. Dégage, dégage, Al-Bashir, dégage. Dégage, dégage, Al-Bashir, dégage.
Le régime soudanais a nié catégoriquement qu'il n'y a aucun Soudanais qui se trouve en Libye.
Saura, saura, hatta nas. Saura, saura, hatta nas. Saura, saura, hatta nas.
Et les bourreaux des esclavagistes en Libye, ils demandent 7000 euros. Et il y a un réseau qui se trouve au Soudan aussi, pour remettre l'argent au Soudan et libérer les Soudanais pris en esclavage. Donc nous lançons cet appel à l'organisation de l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies, vraiment de faire plus vite pour sauver nos compatriotes qui se trouvent en ce moment en esclavage en Libye. Là, le but, c'est que nous voulons que le gouvernement français fasse un effort de mettre fin à ces pratiques d'esclavage. Bon, ce qu'on demande aux Français, c'est d'être en solidarité avec nous. Au XXIe siècle, on se retrouve dans un monde d'esclavage. C'est étonnant. C'est très étonnant.
Non, non, dictateur, non, non, dictateur. Non, non, dictateur, non, non, dictateur.
Oui, nous voulons votre solidarité, la population grenobloise. On a besoin de votre solidarité. Les Soudanais se sont abandonnés par leur pays. Vraiment, ils vivent l'esclavage en Libye. Le régime soudanais ne reconnaît même pas les Soudanais. Ils se sont réprimés au pays. Et ils disaient ils se sentent abandonnés par l'Union européenne, par l'Union africaine, par les Nations unies. Ils ne savent pas comment faire, quoi. Donc aujourd'hui, ils se sont tournés vers la communauté grenobloise, peut-être en solidarité avec eux. Donc les Soudanais au pays, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas sortir, dire un mot. Une fois si tu sors faire une revendication, on va te battre publiquement ou soit te mettre en prison. Et en ce moment, il existe plusieurs Soudanais qui se trouvent dans des pays africains, dans des camps de réfugiés. Ce n'est pas qu'en Europe ou soit en France. Même dans le pays africain, il existe pas mal de Soudanais dans des camps de réfugiés.
في حضرة الأصحاب شاي الصباح أجمل مهما الزمن خلاك بتنادى فوق البوش من سدة الأبواب تزرع براك تحسب كل القبيلة فيك كل الوطن للناس لا غاسة لا عامة مهما الإرك دساس شرف الكتابة طويل شرف الكتابة عيون.
C'est donc toujours micro-ondes sur, donc sur Kaléidoscope le 97 FM. Voilà, et c'est donc la fin de notre émission. On enchaîne simplement du coup sur une petite brève et puis des points de l'agenda. Voilà, on remercie encore Philippe Robin d'avoir été avec nous la totalité de l'émission. Voilà, et donc tout de suite une petite brève sur la question du logement. Voilà, donc on parlait ici aussi dans ce, donc de personnes soudanaises notamment. Il faut savoir que des personnes notamment qui étaient à cette manifestation ont des grosses difficultés de logement puisqu'étant soit déboutés du droit d'asile soit encore en demande d'asile mais non logés par la préfecture contrairement à ses obligations et du coup c'est des personnes qui en général pour se loger n'ont d'autres possibilités que de squatter et donc une partie de ces personnes vivaient notamment dans un squat au 32 rue Maréchal Joffre à Fontaine qui avait été ouvert fin novembre et qui a été expulsé le 25 janvier. On voulait simplement revenir sur cette procédure d'expulsion parce que elle a été engagée donc par la SDH et par la mairie de Fontaine en même temps et il y a eu une particularité, c'est qu'il y a eu trois procédures en parallèle. Il y a une procédure normale, une procédure qui s'appelle sur le fond et une procédure qui est tout à fait nouvelle et qui est appelée une ordonnance sur requête et qui en fait est une procédure non contradictoire. C'est-à-dire que c'est une procédure où on peut pas se défendre, où on connaît même pas la date de son procès et on est uniquement en fait averti lors du rendu. Et je voulais simplement revenir sur ça parce que ça montre ici que du coup un bailleur social utilise de manière largement abusive cette procédure sur requête pour expliquer cette procédure a été inventée tout bêtement pour les personnes qu'on pense être en délit de fuite. Par exemple, on veut récupérer la garde d'un enfant, on a peur que la personne parte avec l'enfant avant que le procès ait lieu. On fait du coup une procédure non contradictoire où elle peut pas se défendre et où elle est pas au courant qu'il y a un procès contre elle pour derrière... pouvoir récupérer, mettons, enfin voilà, avoir un rendu favorable et pouvoir récupérer l'enfant. C'est pas du tout justifié dans le cadre d'un squat. Il l'explique en disant que soi-disant il n'y avait pas de, c'était une procédure anonyme qui savait pas à qui s'adresser. Or il y avait des noms sur la boîte aux lettres et or le rendu est nominatif. Donc on n'est pas du tout dans la question d'une procédure anonyme puisqu'il y a un rendu qui s'adresse bien à des personnes. Et il faut savoir du coup que donc l'expulsion a eu lieu le 25 janvier, que les occupants n'étaient même pas au courant de leur expulsion, que les personnes ont été contrôlées puis relâchées, mais par contre que les affaires, elles, sont toujours bloquées dans le squat et que et la SDH et l'huissier refusent pour l'instant d'ouvrir l'accès au squat alors qu'il y a encore des papiers, des documents administratifs, des papiers d'identité qui se trouvent dans le squat de personnes qui y vivaient. Voilà, du coup, c'est particulièrement scandaleux, particulièrement odieux et on vous invite, si vous le voulez, à soutenir la lutte, notamment en appelant l'ASDH, donc Société Dauphinoise pour l'Habitat, au 04 76 68 39 39, ou bien le cabinet d'huissier, donc au 04 76 98 00 36. Donc l'ASDH 04 76 68 39 39, l'huissier 04 76 98 00 36. Un petit point d'agenda, voilà d'abord donc les prochains points, vas-y Abdel.
On va parler de la marche des solidarités qui aura lieu le samedi 17 mars 2018, 14h, à Stalingrad, à Paris. Donc c'est à l'appel des anticolonialistes dans le cadre de la 13e semaine anticoloniale. Ces associations se sont mobilisées pour dire stop aux violences policières, notamment on pense bien sûr à Adama Traoré, Amin Bentoutsi, Théo, etc., et demander vérité, justice et mémoire pour ces gens-là. Arrêter aussi la chasse aux sans-papiers et aux migrants. Donc dignité, liberté, égalité qui caractérise cette République. Voilà. Donc on vous invite à être nombreuses et nombreux à cette marche en solidarité, en soutien aux premiers concernés qui s'organisent. Voilà.
Et on reviendra du coup sur cet événement dans l'émission de mars aussi, j'imagine. On en reparlera dans l'agenda. Au préalable, par contre, un événement en février qu'il ne faut pas manquer, c'est donc le 24 février. Il y a un double événement. D'une part, la journée Médiatisons nos luttes, qui du coup aura lieu le 24 février au 6 Ruget. Et l'idée, c'est que plusieurs médias et plusieurs collectifs en lutte qui cherchent justement à les médiatiser et à les relayer, etc., se retrouvent et puissent échanger ensemble. Donc, le 6 Ruget à partir de 14h. Voilà. Du coup, il y aura aussi une soirée de soutien aux médias, donc au site internet qui s'appelle CRIC. cric-grenoble.info. Ce même 24 février, le soir, il y aura aussi une soirée de soutien à l'association, à la coordination, enfin au collectif, pardon, Patate Chaude. Et ce sera donc au bar L'Engrenage. Et L'Engrenage, c'est donc rue Jean Prévost, quartier Saint-Bruno. Voilà, et donc c'est une soirée avec de la bonne musique et y aller pour la bonne cause. Donc on peut y aller pour la bonne cause. Est-ce qu'il y a d'autres points à l'agenda ou...
Bah, en mars, on reviendra dessus puisqu'on fera une émission sur les prisons bientôt. Il y aura des événements en mars, autour du 17 mars aussi, une journée à Grenoble. Donc on n'a pas encore toutes les précisions, mais il y aura des choses aussi.
Super.
Donc on reviendra. Pour l'instant, rien d'autre.
Parfait.
On se quitte là-dessus. Merci
on oublie
beaucoup.
Forcément des choses. Et on... D'ailleurs, il faut envoyer les choses hein, si,
c'est ça.
Sur le Facebook et tout, là, pour l'agenda, parce qu'on oublie forcément plein d'événements. Donc n'hésitez pas.
Merci d'avoir merci. Écouté cette émission. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Philippe d'être venu avec nous pour parler de la CRI. Et on se revoit le mois prochain.
Parfait.
Parfait.
À bientôt.
Au plaisir.